Donc de cette exigence du collectif découle une pratique singulière du métier et découle également des sentiments d'appartenance très forts à des communautés militaires qui se déclinent du haut jusqu'au bas de l'ensemble collectif qu'est le militaire ou que sont les armées. Je crois que c'est M. Meyer tout à l'heure qui disait « Mais comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans ces armées ?» Entre aviateurs, marins, terriens, je vais dire comment est-ce qu'on peut s'y retrouver entre chasseurs alpins, Xème régiment d'artillerie, Xème compagnie, Xème manipule, centurie, comme dans Astérix et Obélix, hein, vous voyez les présentations. C'est en réalité parce que ce sentiment du collectif, il est décliné à travers tout l'appareil militaire et à travers toute l'institution militaire, du plus haut niveau jusqu'au plus petit niveau. L'unité de base d'une équipe, d'un groupe de combat, d'un équipage, plus petit soit-il, cultive ce sentiment de fraternité. Et le cultive d'ailleurs, et je pense que c'est important, sans s'enfermer dans un singularisme excessif, mais en le reliant au drapeau, à la devise du bâtiment, à la devise de la République. C'est ce qui est très fort dans les armées, qui fait qu'on passe de la très forte solidarité, de la fraternité incarnée dans son sergent, dans son officier marinier ou dans le lieutenant de vaisseau qui commande le petit bâtiment. Cette solidarité est incarnée, elle est incarnée par un chef, et elle s'incarne aussi dans le drapeau et dans la devise « Honneur et patrie » qui est marquée sur notre drapeau. Cette exigence de collectif et de fraternité, elle induit évidemment une pratique de la discipline qui est particulière, ça a été évoqué tout à l'heure. Alors là, je ne vais pas faire de long développement sur la pratique de la discipline ou du commandement dans les armées, mais c'est l'exact opposé de la caricature que tout le monde voit dans le commandement militaire et dans la discipline militaire. Voilà. D'abord, il y a des nuances en fonction des armées, parce qu'un caporal d'infanterie n'obéit pas comme un marin, évidemment pas, ou comme un aviateur, ou comme un gendarme. Mais de toute façon, la discipline militaire, elle se rapporte au sens de la mission. Et le sens de la mission, qui est une mission par définition toujours extraordinaire, qui va mettre chacun face à des responsabilités extrêmes qui consistent à donner la mort, conduit chaque militaire à exiger de son chef une légitimation et une explication de la mission qu'il lui donne. Et donc, dans les armées, on est à la fois très discipliné et en réalité, on a un rapport à l'autorité qui est un rapport d'extrême franchise, d'expression extrêmement libre, de discussion même de l'ordre avant que celui-ci ne soit définitif. Et on a un rapport dans la relation du haut vers le bas qui est un rapport d'explication, de pédagogie constante des raisons pour lesquelles on demande à un subordonné de faire telle ou telle action. Et entre cette exigence qu'est obligé de manifester le commandement et l'autorité qui va donner la mission et cette exigence de sens de celui qui reçoit la mission, se crée une relation de commandement et d'autorité qui est très singulière, qui permet à la fois une très grande franchise, qui permet une très grande liberté, mais qui, une fois que l'ordre a été donné, qu'il est, après toutes les discussions et éventuellement toutes les contestations de cet ordre, et croyez-moi, on ne se prive jamais de contester un ordre avant que celui-ci ne soit donné, lorsqu'on est dans la phase de préparation, d'explication, une fois que l'ordre a été donné, il y a effectivement un très grand respect de la hiérarchie. L'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure. Mais ce respect de la hiérarchie, il procède précisément de cette relation de confrontation d'idées, de confrontation d'explications, sans laquelle il n'y a pas de légitimité de l'action. Je pense que c'est très important, et vous devez comprendre que ça constitue une sorte de colonne vertébrale des valeurs militaires et de la vertu militaire. Vous l'avez compris, au-delà de cette exigence du collectif, d'une pratique particulière de la discipline, du commandement, du management, ce qui est très vrai, c'est l'exigence du sens. Parce que tout cela n'est pas possible sans que on comprenne les raisons précises pour lesquelles on nous demande de faire telle ou telle chose. Et l'exigence du sens, c'est celle que j'ai, moi, vis-à-vis du président de la République, lorsqu'on conseille de défense, je lui propose des orientations, je réponds à ses exigences, je conteste les orientations qu'il me donne, et je demande à ce qu'il y ait du sens. C'est l'exigence de sens, d'ailleurs, auquel je réponds quand je réponds aux députés de la commission qui me posent des questions ou aux sénateurs qui me posent des questions. C'est une exigence de sens qui va être la même auprès du plus petit des soldats qui doit mettre en œuvre cette force collective. Et personne ne peut être exonéré de cette exigence de sens. Absolument personne.